Bonjour à tous. J'espère que je vais pouvoir aller jusqu'au bout parce que la... les petits rhumes, les petites affections de l'hiver continuent de tourner. Donc vous inquiétez pas s'il y a une extinction à un moment donné. Bon, alors, alléluia. Merci pour le temps que nous avons passé déjà. Et je vais parler de Noël, mais sous l'angle que j'ai choisi, l'angle de la grâce, qui est un rappel de la grâce que Dieu a fait à l'humanité. Et bien souvent, on doit avouer que pour nous, Noël, on se dit, mais quel mélange, quel cafouillage, et comment parler de Noël, et puis jusqu'au point où même certains chrétiens ne savent même pas s'ils doivent fêter Noël, quoi. Et on dit la même chose de Pâques, hein, mais je ne veux pas rater les moments qu'on a de rappeler la grâce de Dieu, qu'on a de rappeler que ce moment ne soit pas exact, que ce moment ait été utilisé, soit utilisé d'une autre façon, d'une façon mercantile, mais peu importe, toutes les occasions qu'on a d'annoncer l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, ben alléluia, les portes sont ouvertes. Et donc, c'est vraiment un rappel sur un focus sur la grâce de Dieu. Parce que mine de rien, on a tendance à oublier ou alors à sous-estimer cette valeur extraordinaire. Parce que les choses qui sont gratuites, on ne sait pas trop comment les prendre, quoi. J'ai pris juste les quelques mots d'un chant de Stéphane Kerry, Grâce infinie. Donc, je ne vais pas chanter ce matin, hein. Je ne vais pas vous faire fuir. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand il m'a retrouvé. Ça vous est arrivé aussi? Alléluia! Je ne suis pas le seul. Amen. Et nous voulons que cette grâce infinie continue de se répandre partout. Et l'annonce que l'ange dans Luc 2 fait donc au berger, l'ange leur dit: soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Alléluia. Ça a traversé tous les siècles et ça va continuer jusqu'à son retour. Et donc, c'est pas parce que le monde nous répand une fausse bonne nouvelle, parce que quand on découvre que le Père Noël, c'est faux, ça fait un moment, hein. Je vous rassure. Mais dans notre tête, on peut se dire que notre Papa Céleste, mais peut-être qu'il n'existe pas non plus. Donc ces mensonges qui sont aussi ces cadeaux qu'il faudrait mériter, alors ça voudrait dire que il faut toujours mériter quelque chose. Mais là, la grâce de Dieu, c'est la faveur imméritée. Amen. Amen, c'est le don de Dieu. Alors, il y a un texte merveilleux qui est dans Éphésiens 2. Voilà. Pour vous, pour nous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Non, ça ne marche pas? Ça va jusqu'à 10, hein. Voilà, mince. Mais Dieu est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Donc rapidement, je vais revenir sur ces versets. Et donc, nous tous, chrétiens ici, ou pas encore chrétiens, sur cette région de Rennes, dans toutes les régions du monde, nous étions morts par nos fautes et par nos péchés. Il n'y a pas de doute là-dessus. Spirituellement morts, sans possibilité de relation avec Dieu. Ça veut dire, spirituellement morts, il nous était impossible de rentrer en relation, en communication avec le Seigneur. Donc verset 2. Dans vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous étions entraînés donc aveuglément par une puissance qui nous dominait. La parole vivante à cette traduction, en fait, vous obéissiez à Satan, qui règne en maître sur l'atmosphère spirituelle que nous respirons. Une atmosphère spirituelle que nous respirons, ça veut dire qu'on est vraiment dedans. Et qui influence la mentalité ambiante. Vous viviez dans la dépendance des esprits mauvais qui accomplissaient leur œuvre en vous, comme ils le font encore en ceux qui refusent d'entrer dans le plan de Dieu. Esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. L'hostilité à ce qui vient de Dieu. On brandit le poing. Alors, c'est peut-être un petit poing. C'est peut-être pas... On n'est peut-être pas des violents. Mais dans notre cœur, il y a une opposition à Dieu. Ils ne connaissent pas le plan de Dieu. Nous ne connaissions pas le plan de Dieu. Du moins, en partie. Mais on s'oppose consciemment. Voilà l'état dans lequel nous étions. Verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Toujours la parole vivante, notre comportement à nous tous nous était dicté par nos instincts et nos passions. Nous nous laissions aveuglément gouverner par les impulsions de notre être naturel. C'est plus clair ? Ça veut dire quelque chose, hein ? Tout ce que désiraient nos pensées et notre imagination corrompue, nous l'exécutions car nous étions comme obligés de céder à tous les caprices de notre nature humaine et de nos sens. Aussi, nous les Juifs, mais nous aussi les païens, étions-nous par nature l'objet de la colère de Dieu, comme tout le reste des hommes. Aucun homme n'échappe à ce virus mortel du péché. Il se perpétue de génération en génération, ce virus mortel, qui contamine chacun. Personne n'est exclu. Personne n'est exclu. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Je continue. Alors. Mais Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Riche en miséricorde. Qu'est-ce que veut dire cette miséricorde ? Alors j'image ça, c'est pas de moi. La miséricorde, tu es dans la misère, le Seigneur te tend une corde. C'est parlant, hein ? Alors aujourd'hui, j'ai pas d'image. Mais j'en ai des comme ça, parce que ça parle aussi. Nous étions dans la misère, quand nous avons ouvert les yeux, oui, quelle misère. Et Dieu nous tend la corde, comme celui qui est en train de se noyer, on jette la bouée, et puis on le tire sur le bord du rivage. Riche en miséricorde. À cause de quoi ? Il nous est dit, à cause du grand amour de Dieu. Du grand amour dont il nous a aimés. Aïe, aïe, aïe. Alors, où sont les exclus de l'amour de Dieu ? Vous les avez vus quelque part, les exclus de l'amour de Dieu ? Dans ce texte, où sont les conditions suspensives ? Est-ce que Dieu a mis des conditions ? Pas un tel, pas celui-ci, pas celui-là, pas cette nation, enfin, etc. Il n'y a aucune condition suspensive à la grâce de Dieu. C'est une offre inconditionnelle. Alléluia ! Inconditionnelle, comme l'amour de Dieu. Il ne met aucune condition, même pour que le plus dangereux des hommes vienne à lui. Verset 5. Nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendu la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Morts par nos fautes. Là, nous étions bien exclus. Et la suite, il nous a rendu la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Encore parole vivante, il nous a conduits vers une vie nouvelle en nous communiquant la vie même du Christ. C'est pas n'importe quoi, la vie même du Christ, du Fils de Dieu. N'est-ce pas la pure grâce ? N'est-ce pas pure grâce que ce salut immérité ? Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Alors là, fait asseoir ensemble, vous avez un petit peu de mal, et puis moi aussi, à m'imaginer ça. Je ne sais pas vous, mais souvent j'ai buté sur ce « assis dans les lieux célestes ». Je le lis, je le relis, et on peut buter là-dessus. Alors donc, parole vivante toujours nous dit « oui, par notre union avec le Christ ». Ah, ça s'éclaircit là. Il nous a ressuscité avec lui, et nous a transplantés dans le monde céleste, nous donnant notre place sur le trône avec Christ, dans le royaume qui n'est pas d'ici-bas. Et alors, je me disais, oui, pour être ressuscité, il faut être passé par la case de la mort. Est-ce qu'on est passé par la case de la mort ? Oui, nous avons connu la mort spirituelle et la mort à nous-mêmes. Et ce fameux verset qui m'a tant de fois inspiré, Galates 2:20, je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Il s'est passé quelque chose de surnaturel, mais de véritable. Si Christ est sur son trône dans les cieux, et puisque nous sommes en Christ, eh bien nous sommes avec lui. C'est pas plus compliqué que ça. Il est sur son trône et nous sommes avec lui. Et malgré nos doutes, nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Amen. Non, afin de montrer, le verset 7, dans les siècles à venir, la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. Afin de démontrer dans tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce par la bonté qu'il nous a témoignée en Jésus-Christ. Nous sommes donc un témoignage vivant. Nous sommes d'hommes, donc un témoignage vivant. Christ vit en nous. Un témoignage vivant de la grâce extraordinaire de Dieu. À l'époque où Jésus était sur terre, il était dans un seul lieu, à la fois. Maintenant, nous vivons une autre époque, l'époque de la Nouvelle Alliance. Le Saint-Esprit est répandu partout, sur toute la surface de la terre. Et il est réparti, enfin il vit dans chacun des croyants, dans chacun des chrétiens. Amen. Donc ça veut dire que Dieu témoigne partout où il y a des chrétiens. Amen. Afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante. Alors là, on comprend, oui, sur toute la terre, le Saint-Esprit peut parler. Verset 8. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Le moyen de la foi. La foi est un moyen. C'est comme un canal surnaturel qui nous relie à Jésus. Et si nous imaginons un petit peu, la canalisation nous relie à la source. Et la source, c'est Christ. Et quand j'ouvre le robinet de la prière, le robinet d'ouvrir la parole, le robinet de la louange, alors, glou, 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 l'eau de la source, elle arrive sur mon cœur. Alléluia. Elle arrive sur mon cœur pour le laver, le nettoyer, pour l'irriguer, pour lui donner la vie. Et la vie en abondance. Et Parole vivante dit, conclut ce verset, « Rien ne vient de vous, tout est cadeau de Dieu. » Rien ne vient de vous, tout est cadeau de Dieu. Alléluia. Donc verset 9, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Puisque le cadeau, il est gratuit, ce n'est pas nous qui l'avons fabriqué. Amen. Ce n'est point par les œuvres. Et ce n'est pas en accomplissant les commandements que vous l'avez acquise. Et là, pensez aux paroles que Jésus a dit au brigand sur la croix. Qu'est-ce qu'il lui a dit au brigand sur la croix ? Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alors ce pauvre brigand, il ne pouvait plus faire d'œuvre. Il lui restait quelques minutes à vivre. Aucune œuvre, il pouvait le faire. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il était sauvé. Ce ne sont pas nos œuvres, ce ne sont pas nos mérites qui font que nous sommes sauvés. C'est une grâce inconditionnelle. Tout mérite est donc exclu et du même coup se trouve écarté toute raison de s'enorgueillir. Alléluia. Un bon coup de pied dans l'orgueil là. Verset 10. Car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Encore Parole vivante nous traduit ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu, celle pour laquelle il a tout arrangé d'avance. Il a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus à y marcher. Plus qu'à y marcher. Le chemin est tracé. Et cette grâce inconditionnelle que nous avons du mal à comprendre, c'est comme s'il y avait un filtre devant nos yeux de pécheurs. Nous avons perdu par le péché la nature inconditionnelle de l'amour et de la grâce de Dieu, puisque nous n'étions plus en relation avec Dieu. Comment comprendre la nature d'amour de Dieu ? Comme une maladie qui serait venue nous enlever la sensation du bon goût de ce que nous mangeons, et tout serait fade. Et la maladie nous aurait volé l'authenticité du goût. Ne laissons pas le prince de ce monde nous voler l'authenticité de la vérité de la grâce en Jésus-Christ. de la grâce en Jésus-Christ, pas des mérites de ceci ou de cela. Alléluia. Alléluia. Et on a du mal, bien sûr, avec ce qui est gratuit. On entend, oh, ça cache quelque chose, ça. Hein? Ou alors, si c'est gratuit, c'est que ça ne vaut pas grand-chose. Hein? Tout ça, ce sont des mensonges aussi. Mais tous les mensonges, bon, on dit, oui, non, mais je suis au-dessus de ça, etc. Mais ça contamine un petit peu. Et puis, on peut douter de cette grâce, de cette faveur imméritée. Et puis, on veut mériter aussi. Hein? Je ne sais pas, mais moi, je parle de moi, vous, vous êtes mieux que moi. Je, bon, des fois, pas toujours. Mais on sait par expérience que ben, si on a fait du mal à quelqu'un, bon, on a envie de se racheter un petit peu, quoi. Bon, d'adoucir la note, quoi. Enfin, bon. Mais avec Dieu, on peut faire pareil, quoi. On s'est pris les pieds dans le tapis, boum. Ce que nous savions qui n'était pas bon, on l'a fait. Oh, on se dit, Seigneur, mais oh là là, encore. Et on ne revient pas à Dieu tout de suite. On a envie, oh, comme si on prolongeait le temps pour peut-être on va avoir une occasion de se racheter. Je ne sais pas, aider une vieille dame à traverser la rue. Aider quelqu'un qui est dans le désespoir. Il y a un tas de choses comme ça. Alors avant que je sois converti, ce n'était pas clair pour moi. Il fallait faire le bien. Je suis d'accord, il faut toujours faire le bien. Mais il y a des fois, c'était pour me donner bonne conscience. Là, le Seigneur, il n'a pas besoin de notre bonne conscience. Il nous dit de venir à lui. Si tu as péché, reviens au Seigneur Jésus. Tout simplement. Il ignore rien de ce qui s'est passé. Les tenants, les aboutissants, les enfin, tout. Tout ce qu'on a à lui dire, Seigneur, je suis encore tombé dans le panneau. Seigneur, délivre-moi de ce péché. Délivre-moi de ce péché. Je te demande pardon. Conduis-moi dans ta vérité. Rends-moi libre, Seigneur. Et donc, il va nous libérer. Et sans que nous ayons mérité quelque chose, sinon de nous approcher de lui. Parce que celui qui nous rachète de tous nos péchés, c'est Jésus-Christ, notre Rédempteur. Le Rédempteur que nous pourrions racheter, que nous pourrions traduire, celui qui rachète. Nous étions esclaves. Un esclave qui est affranchi, il est racheté par quelqu'un qui le rend libre. Et la gravité qu'il y a quelquefois à sous-estimer la grâce. Parce que ça nous conduit dans des mensonges et ça nous conduit dans une vie bancale aussi avec le Seigneur. Et pour ça, vous connaissez l'exemple du serviteur impitoyable. Je suis sûr que vous le connaissez. Matthieu 18. Alors ça, c'est la version parole vivante. J'aime bien prendre cette version parce qu'elle est très explicite. Même si vous avez lu la Bible une centaine de fois, une traduction, on l'appelle la parole vivante, et elle nous traduit des choses d'une autre manière. À ce sujet, verset 23, voici comment cela se passe dans le royaume des cieux. Un roi voulait régler ses comptes avec les administrateurs de ses biens. Pour commencer, on lui présenta un débiteur qui lui devait plus d'un milliard d'euros. Comme ce fonctionnaire n'avait pas de quoi rembourser ce qu'il devait, le maître donna l'ordre de le vendre comme esclave avec sa femme et ses enfants et de liquider tous ses biens pour éteindre sa dette. Alors ce dernier se jeta à ses pieds et resta devant le roi prosterné, le front contre terre, en suppliant « Sois patient envers moi, accorde-moi un délai, je te rembourserai tout. » Le souverain prit de pitié pour lui, le renvoie libre, après lui avoir fait cadeau de toute sa dette. C'est merveilleux. À peine sorti, ce fonctionnaire tombe sur un collègue qui lui doit quelques centaines d'euros. Il l'attrape et lui serre la gorge à l'étrangler. « Paie-moi tout ce que tu me dois !» lui crie-t-il. Son camarade se jette à ses pieds et se met à le supplier. « Sois patient envers moi !» lui dit-il. « Accorde-moi un délai, je te rembourserai. » Mais l'autre ne veut rien entendre. Bien plus, il s'en va et le fait jeter en prison en attendant qu'il ait payé tout ce qu'il lui devait. D'autres collègues témoignent de ce qui s'est passé en sont profondément révoltés et font rapporter toute l'affaire à leur maître. Alors celui-ci fait convoquer immédiatement le fonctionnaire qui a agi de la sorte. « Espèce de vaurien, lui dit-il, tout ce que tu me devais, je t'en ai fait cadeau parce que tu m'en as supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton collègue, comme j'ai eu moi-même pitié de toi ?» Et dans sa colère, son maître le livre au bourreau pour qu'il le mette en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé toute sa dette. Voilà comment mon Père Céleste vous traitera, vous aussi, si aucun de vous ne pardonne de tout son cœur à son frère. J'ai dit quoi ? Pardon, oui, oui, chacun. Ah, il y a des personnes qui écoutent, hein. Et oui, puisque Dieu nous a fait grâce plusieurs fois, maintes et maintes fois, alors notre cœur, le cœur d'un chrétien, il doit être rempli de grâce. Rempli de grâce. De générosité, y compris à l'égard de celui qui l'opprime. Alors bien sûr, reste quelquefois à convaincre nos mains ou nos bras de relâcher ceux qui nous offensent. La grâce de Dieu n'a rien exigé, mais a fait une œuvre de transformation radicale dans nos cœurs. Du cœur de pierre, le Seigneur l'a changé en cœur de chair. Alors ne soyons pas dans la dureté, dans l'exigence envers les autres. Et bien souvent, bien souvent, bien souvent, le meilleur chemin, c'est le chemin de la prière. Relâchons par le pardon tous ceux qui nous offensent. Relâchons parce qu'une grâce incommensurable nous a été faite. À chacun et pas à aucun. Amen. Je vais vous prendre un autre. Un autre passage, enfin deux passages. Donc, c'est ce que Pierre dit dans 2 Pierre 3,18. Mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Croître dans la grâce. Je n'avais pas trop remarqué avant. Comme quoi ça fait du bien, quand le Seigneur nous attire sur un sujet, de reprendre ce qui est dit. Alors là, sur la grâce, hein, je pourrais vous prêcher pendant une année entière. Hein. Non, je ne vais pas faire ça, je vais vous faire cette grâce. Croissez dans la grâce. Intéressant. Et Jean 17, là où Jésus s'exprime, au verset 3, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Pierre et Jean ont repris les paroles de Jésus un petit peu différemment. Mais pour moi, ce sont les mêmes paroles. Connaître Jésus se fait dans sa présence, dans l'expérimentation de sa grâce. Parce que connaître, ça veut dire un échange, une communion, une relation. Et de cette relation vivante, nous recevons ce qui est essentiel, pleinement essentiel. Et nous recevons, oui, de cette source divine. Vous avez parlé d'être connecté, une canalisation qui nous relie à la source divine, à la source de grâce merveilleuse en Jésus-Christ. Et l'eau va couler. L'eau va couler. L'eau va couler. Nous voulons qu'elle coule sur nous. Cette eau divine pour nous laver, nous purifier et nous équiper aussi. Ça ressemble à la grâce. Et alors, quand nous regardons au début de la Bible, dans la Genèse, il nous est parlé de deux arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'autre arbre, et l'arbre de vie. Amen. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, on pourrait l'appeler l'arbre de la loi. Et l'arbre de vie, nous pourrions l'appeler l'arbre de la grâce. Dieu a donné à Moïse beaucoup de prescriptions, toutes bonnes. Donc des choses importantes à faire ou ne pas faire, mais qui étaient impossibles à faire sans la présence permanente de Dieu. Et Adam et Ève s'étaient coupés de la relation directe avec Dieu. Impossibilité quand nous mangeons du fruit de cet arbre de la connaissance, de pouvoir obéir parfaitement à Dieu quand nous ne sommes pas alimentés par l'arbre de vie. Parce que Dieu avait interdit, bien sûr, de consommer de cet arbre de la connaissance, mais l'arbre de vie, vous avez trouvé quoi? Il n'y a aucune interdiction. Nous devons consommer de l'arbre de vie. Amen. Et donc, cet arbre de vie représente la grâce et la relation d'intimité avec le Seigneur. Parce que c'est toujours vrai que la recherche de connaissances, que ce soit dans le domaine chrétien, dans d'autres domaines, ça finit par produire, mais assez rapidement, l'orgueil. Parce qu'il y a un désir de savoir, il y a un désir de s'élever. Et quand vous n'êtes pas connecté à l'arbre de vie, à la source de vie, c'est déséquilibré. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas étudier, bien au contraire. Bien au contraire, mais étudier avec les bonnes dispositions d'un cœur qui est relié à l'arbre de vie qui est Jésus. Et si nous regardons maintenant dans la Nouvelle Alliance, Hébreux 8, verset 10 nous dit « Or voici l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur intelligence, je les inscrirai aussi dans leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. » Alléluia. La connexion est faite. Alléluia. Pas par nous-mêmes, mais parce que cette super canalisation, c'est Dieu qui l'a faite. Romains 13, 8 nous dit « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Verset 9 « En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne rendras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, et tout autre commandement se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. » Verset 10, l'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Alléluia. Mes amis, l'amour inconditionnel de Dieu, la grâce inconditionnelle de Dieu, laissons-la couler. Abandonnons la dureté, les exigences. À un moment, il faut capituler. Seigneur, tu sais toutes choses. Tu es la tête de l'Église. Nous sommes chacun tes serviteurs et tes servantes. Seigneur, que ta grâce coule à flot sur nous. Nous avons besoin d'un renouvellement de notre intelligence, d'un renouvellement de notre cœur. Si nous sommes dans la dureté, par où va passer l'amour? Par où va passer la grâce? Par où va-t-on trouver les témoins? Alléluia. Le Seigneur, bien sûr, nous a éclairés sur ces choses-là. Et bien sûr, nous reconnaissons l'arbre de vie. C'est Jésus qui nous a donné la vie. Et je vais reprendre cette prière qui est dans Éphésiens 3, qui est merveilleuse. Qui est merveilleuse. Alors vous pouvez aller la chercher, la personnaliser. La personnaliser. C'est-à-dire mettre Dieu, demande Seigneur, je te demande cette faveur. On va la lire ensemble. C'est aussi la version Parole vivante, il me semble. Oui. Quand je considère la grandeur de ce plan, je tombe en adoration devant le Père. Ce Père à qui toutes les familles du ciel et de la terre doivent leur existence et leur nature. Ses ressources sont infinies. Il tient des trésors de grâce à votre disposition. Des trésors de grâce à votre disposition. Je lui demande, c'est-à-dire je prie, que par son esprit, vous puissiez vous en saisir, qu'il vous fortifie, qu'il renouvelle votre être intérieur, afin que vous puissiez grandir et progresser. Que votre foi, que par votre foi, le Christ puisse faire dans vos cœurs, de vos cœurs, sa demeure permanente. Alors, solidement fondé sur lui, plongeant vos racines profondément dans l'amour, vous serez aussi à même, dans la communion avec les autres chrétiens, de sonder toutes les dimensions du plan de Dieu pour vous et de réaliser à quel point l'amour de Christ est long, large, profond et élevé. Que vous puissiez connaître vous-même cet amour, bien qu'il surpasse tout ce qui est possible de connaître ici-bas, jusqu'à ce que tout votre être soit rempli de la pleine présence divine. Tout votre être rempli de la pleine présence divine. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nos prières peuvent demander, ou que notre imagination ose espérer, à lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, à travers toutes les générations, jusqu'au temps infini du monde à venir. Amen. Je vais m'arrêter là. Et puis, est-ce qu'on peut prendre le chant « Je veux demeurer dans ta grâce » ? Vous êtes prêts ? On va reprendre ce chant qu'on a chanté tout à l'heure. Comme une prière. Comme une prière pour chacun d'entre nous. Oui, Seigneur. Nous trouverons tout à nouveau notre cœur. Oui, Seigneur, tu nous as fait, et tu fais chaque jour, Seigneur. Tu nous fais une grâce merveilleuse, celle d'être avec nous. Celle de venir sonder nos cœurs, les éclairer. Celle de révéler ta vérité au-dedans de nos cœurs. D'écrire ces paroles qui deviennent des paroles de vie. De répandre ta vie, Seigneur, qui est une vie abondante. Qui est une vie qui porte de bons fruits. Nous voulons nous souvenir, Seigneur, qu'avec toi, tout est grâce. Nous venons simplement, humblement devant toi, Seigneur. Merci pour ce cadeau merveilleux. Merci pour ce cadeau merveilleux. Seigneur, je veux te dire merci chaque jour, Seigneur. Que je vois ou que je ne vois pas. Que ça aille bien ou que ça aille mal. Tu es toujours là. Oui, Seigneur, tu ne dors ni ne sommeilles. Ton regard d'amour, ton regard de grâce est sur nous. Ô Seigneur, nous ne voulons pas oublier que toujours ta porte est ouverte, Seigneur. Que nous venions à tes pieds, Seigneur. Toi seul peux nous parler. Toi seul peux expliquer ce que nous ne comprenons pas. Tu es tout pour nous, Seigneur. Reçois notre adoration. Amen.